Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Takada Masafumi. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Delcourt Tonkam avec la chronique du volume 2 de Blue Box, la chronique du volume 2 de Blooming Girls et la chronique du volume 2 de Courmet Détective. On aura ensuite un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On parlera culture avec des expressions pour bien finir vos mails en japonais. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec donc le Japon qui juge inconstitutionnel l'obligation de stérilisation des personnes transgenres. Et on finira avec une news musicale concernant Corbin et LXX qui seront en concert en février 2024 en Europe. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Speed Air de Crack Brain. Et on vient juste après pour la présentation de l'artiste Takada Masafumi. Donc c'était Crack Brain avec la chanson Speed Air. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Takada Masafumi. Donc c'est un arrangeur musical, compositeur, ingénieur du son, parolier et programmateur musical japonais qui est né le 2 août 1970, il est âgé de 53 ans et il est toujours en activité aujourd'hui. Il fait partie de l'agence Sound Prestige Records depuis 2011 et il a fait partie du groupe JHAM Sound Team. Masafumi Takada habite à Inuyama dans la préfecture d'Aichi. C'est un compositeur travaillant sur le compte de Grasshopper Manufacture Il est reconnu pour son travail sur Killer 7, qui fait partie des meilleures compositions de sa carrière. Il travaille avec Jun Fukuda, son associé, qui s'occupe de certaines pistes. Masafumi Takada est aussi le subordonné de Suda 51. En 2007, il est l'un des 36 compositeurs de Super Smash Bros. Brawl, sélectionné par le directeur Masahiro Sakurai. Masafumi Takada interprète et arrange également l'ending de Yoshi's Story, ainsi que des stage themes de Mario Nation Gear, puis celui de Shin Onigashima, un jeu de baston révolutionnaire de l'année 2008. Takada compose adroitement dans le genre rock alternatif, allant même jusqu'au hard rock, à l'électro ou à la rave party. Il compose surtout des airs latino épicés, mais agréables et dynamiques. Quelquefois, il les fusionne pour donner une sonorité étrange dans la plupart des bandes originales qu'il enregistre, ce qui leur donne un goût assez soft sans pour autant être trop bourrin. Donc côté discographie, il a sorti un album, No More Heroes, The Virgin Child Makes Her Wish Without Feeling Anything, qui est sorti le 25 juin 2008. Il a participé à une compilation, Game Music Prayer, qui est sorti le 31 décembre 2013. Il a participé à 55 OST, donc on a notamment Vanguard Bandits en 98, Neko Samurai en 99, Michigan Report From Hell en 2004, Killer 7 en 2005, Samurai Champloo en 2006, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, No More Heroes en 2008, Infinite Space en 2009, Zangeki no Reigen Live en 2010, Castlevania en 2011, Kid Icarus Uprising en 2012. On a également Danganronpa The Animation en 2013, The Evil Within en 2014, Super Smash Bros. En 2015, Yume Okoku to Nemureru Yakuni no Oji-sama, qui est sorti en 2016, New Danganronpa V3 Killing Harmony en 2017, The 25th Ward The Silver Case en 2018, Pi Danganronpa Kibu no Gakuen to Zetsubo no Kokosei, qui est sorti en 2020, et on a également Danganronpa Decadence, qui est sorti en 2021. Il a participé à 5 doujin, je vais y arriver, donc le premier c'est Ebi Serpiente, qui est sorti le 13 août 2011, et le dernier, Kid Icarus Uprising Meet the Light, qui est sorti le 19 décembre 2016. Il a participé à 5 génériques d'anime, donc Haruhi no Oji-sama pour Yume Okoku to Nemureru Yakuni no Oji-sama Short Stories. On a Never Say Never et Danganronpa pour Danganronpa The Animation en 2013. Et Secret Dreams pour Yume Okoku to Nemureru Yakuni no Oji-sama, qui est sorti en 2018. Il a participé enfin à 7 génériques de jeux vidéo, donc Danganronpa pour Danganronpa en 2011, Welcome Dangan Island, Kimimo Todoke et Danganronpa Super Mix pour Super Danganronpa 2, Sayonara Zetsubo Gakuen en 2012. On a Di Iso Danganronpa pour Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls en 2014, ainsi que Kagonoko et Danganronpa V3 pour Danganronpa V3 Killing Harmony, qui est sorti en 2017. On va pouvoir s'écouter tout de suite deux musiques de Takada Masafumi. On commence avec Towering Terror, une musique extraite de l'OST du jeu The Evil Within, et on revient juste après pour la chronique du volume 2 de Blue Box.
Asian Bubble. Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Takada Masafumi avec sa musique Sojo Haikei All All Apologies, une musique extraite de l'OST du jeu Pi Danganronpa Kibo no Gakuen to Zetsubo no Kokosei. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Blue Box. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre comédie, romance, tranche de vie, vie scolaire qui a été écrit par Miura Koji et prépublié dans le Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 12 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 4 tomes. Ce volume 2 est sorti le 26 avril 2023 au prix de 6,99€. Le résumé de ce tome, Taiki va devoir surmonter l'entraînement spartiate imposé par Aryu, son nouveau partenaire de double. Le jeune lycéen va débuter le tournoi régional avec brio, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau rival avide de le battre pour obtenir le numéro de téléphone de Shinatsu. La défaite n'est plus une option pour Taiki qui donnera tout, aussi bien en amour qu'en badminton. Donc Aryu apparaît décidément comme la bête noire de Taiki. Non seulement notre héros a dû constater que le brillant joueur de badminton est en excellent terme avec Shinatsu, mais en plus il a été battu par ses soins lors d'un match d'entraînement. Et comme si cela ne suffisait pas, il apprend désormais que Aryu sera son partenaire de double lors du tournoi éliminatoire interlycé du district. C'est avec un certain intérêt alors que l'on s'apprête à suivre dans ce tome ce fameux tournoi, tout d'abord avec les matchs en double, puis la semaine suivante avec les matchs en simple. Une petite pointe de déception pourra éventuellement survenir de l'ensemble au niveau sportif, car concrètement cette compétition défile en un rien de temps. Tous les matchs en simple comme en double sont expédiés en quelques cases, voire ne sont pas montrés du tout, hormis un match simple de Taiki qui permet de faire entrer en scène un nouveau personnage et nouveau pseudo-rival amoureux en la personne de Shoichiro Kishi, ce qui a forcément de quoi motiver encore plus notre héros, d'autant plus que Aryu y glisse un petit enjeu supplémentaire très simple mais efficace. Mais si la représentation des matchs en eux-mêmes est quasiment absente, Koji Miura sait toutefois y cristalliser d'autres choses essentielles, à commencer par le cas de Aryu. En vue des matchs en double, ce dernier fait subir un entraînement véritablement spartiate à Taiki, entraînement où notre héros en bave mais ne lâche rien. Aryu fait-il ça pour calmer ses ardeurs, ou au contraire lui donne-t-il de vrais conseils et se montre-t-il ultra strict envers lui parce qu'il le juge prometteur ? Et puis Taiki a-t-il raison de le voir comme un potentiel rival amoureux ? Donc vite et plutôt bien, en déjouant volontiers quelques pronostics, Koji Miura va répondre à tout ça, mais je vous laisse évidemment découvrir les réponses à ces questions lors de votre lecture. Quant à l'autre intérêt, il est évidemment à chercher dans les progrès que fait notre héros, À force de se donner à fond, de ne rien lâcher, de se stimuler en pensant à Chinatsu, il est clair que Taiki s'améliore, notamment en technique et en endurance, et en s'appliquant même à une petite stratégie pour pallier ses limites face au smasher Shoichiro. On suit alors tout cela avec plaisir, mais l'autrice n'oublie pas pour autant sa part plus axée tranche de vie, bien au contraire. Ici, une confusion de survêtements à la maison offre un petit moment périlleux au lycée pour que personne n'apprenne que Taiki et Chinatsu vivent sous le même toit. Là, une sortie à l'aquarium permet un joli moment à part entre les deux adolescents. De manière générale, Miura rappelle à son héros qu'il a un temps limité pour se hisser à la hauteur de Chinatsu, car elle quittera le lycée un an avant lui. Et surtout, on sent en permanence que tous deux se stimulent sportivement, se confient, s'entraident et font très attention l'un à l'autre au-delà des considérations amoureuses, ce qui est un vrai plaisir. Enfin, dans tout ça, l'autrice n'oublie pas ses personnages secondaires et en fin de tome, c'est cette chère Ina qui est à l'honneur, en ayant droit à un petit focus où l'on sent bien que derrière ses grands talents de gymnaste et ses taquineries, elle reste une fille ordinaire, elle aussi avec ses sentiments. Des sentiments qu'elle ne semble elle-même pas encore calculer ou alors qu'elle refuse d'admettre. Derrière un déroulement classique et un côté sportif que l'on aurait éventuellement voir un peu plus en image, Blue Box confirme aisément son charme ici en étant porté par un équilibre toujours aussi bon entre sport, sentiments et tranches de vie, mais aussi par d'attachants personnages qui sonnent juste. Voilà, donc je rappelle que la série Blue Box est à retrouver aux éditions Delcourt Onkam avec pour le moment 4 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Shadow de Crossbreed, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Blooming Girls.
Yeah.
Donc c'était Crossbreed avec la chanson Shadow. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Blooming Girls. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre romance, tranche de vie, vie scolaire qui a été écrit par Okada Mari, dessiné par Emoto Nao et prépublié dans le Besatsu Shonen Magazine. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 8 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 3 tomes de sortie. Ce volume 2 est paru le 29 mars 2023 au prix de 6,99€. Le résumé de ce tome, après que Nina ait mentionné le fait qu'elle voulait faire l'amour avant de mourir, le club de littérature ne cesse d'enchaîner les complications, les doutes et les fantasmes à propos du sexe. Mais les filles doivent avant tout se concentrer pour empêcher la fermeture de leur club et un candidat improbable les rejoint en tant que conseiller. Pendant ce temps, Kazusa fait de son mieux pour encaisser le changement dans sa relation avec Izumi, son amie d'enfance. Comme si tomber sur lui dans une position aussi intime n'était pas déjà assez choquant, Kazusa se rend compte qu'elle pourrait peut-être éprouver des sentiments pour Izumi. Donc rien ne va plus au sein du petit club de littérature. Non seulement ses membres sont perturbés depuis que le mot « sexe » a été évoqué, mais leur assemblée risque d'être dissoute, faute de présence d'un professeur référent. Alors, tout en faisant face à leurs chamboulements respectifs, les quatre demoiselles mettent tout en œuvre pour tenter de sauver leur club. Le premier volume de Blooming Girls posait de jolies bases, abordant le sensible sujet de la sexualité au cœur d'un groupe d'adolescentes, sans virer dans le voyeurisme ni franchir la ligne rouge. Néanmoins, parce que toutes les héroïnes n'avaient pas forcément eu droit à un véritable espace de développement, on attendait d'en découvrir davantage du manga conjoint de Mari Okada et de Nao Emoto. Aussi, ce deuxième tome, publié en simultané du premier, est l'occasion de se faire un avis plus construit. Et effectivement, si Kazusa et Rika occupent toujours des places centrales dans ce tome, Hitora affirme sa présence et son caractère bien à part via une histoire personnelle qu'il alliera à l'un de ses professeurs. Fort heureusement, il ne s'agit là que d'une manœuvre cocasse pour déjouer une situation, du moins pour l'instant. Pas de détournement de mineur à l'horizon et fort heureusement puisque cela aurait trahi la pureté du titre. Car dans cette enivrance globale, Mari Okada nous parle autant de sexualité que d'adolescence, tout simplement. Ainsi, les demoiselles ont droit à des arcs romantiques personnels, dans lesquels il n'est pas forcément toujours question de relations charnelles, même si le sujet continue de tarauder Kazusa vis-à-vis de son amie d'enfance, Izumi. Avant tout, la concernant elle et Rika, ce sont les amours qui se lient à la notion de sexualité, tandis que l'ensemble de l'opus pose des questions pertinentes sur le sujet, tout en légèreté et par le biais de ces demoiselles pures et sincères. Pour tous ces arguments, le deuxième volume de Blooming Girls confirme les premiers arguments de la série, tout en délivrant de nouvelles richesses des personnages et vis-à-vis des thématiques exposées. Malgré un sujet délicat, Mari Okada livre l'histoire d'une tranche de vie adolescente pleine de bons sentiments, de tendresse et de naïveté, le tout sublimé par la patte expressive de Nao Emoto. Une belle lecture donc qui nous fait regretter l'absence de diffusion de l'adaptation animée chez nous. Pour compenser, on attendra les 6 prochains volumes de l'œuvre avec hâte. Voilà, donc je rappelle que la série Blooming Girls est à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 3 tomes de sortie sur 8 qui terminent la série. On va pouvoir s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Haraburu Kisetsu no Otome Domoyo, donc c'est Otome Domoyo de Chico with Oniworks. Et on revient juste après pour les sorties manga de la semaine.
Let's go.
Donc c'était Chico with Honeyworks avec la chanson Otomedo Moyo qui a servi de premier opening à l'anime Araburu Kisetsu no Otomedo Moyo. On passe donc maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu une sortie aujourd'hui lundi 6 novembre chez Picoma Europe avec le volume 1 de l'édition numérique de Nouveau Départ au Pays des Fées. On aura ensuite d'autres sorties pour mercredi 8 novembre. Chez Glénat, on aura le volume 3 de Six Game qui sera le dernier tome de la série. Le volume 2 de After God, le volume 3 de l'édition Deluxe de Biomega, le volume 5 de Chojin X, le coffret avec les volumes 46 à 53 de One Piece pour l'arc Thriller Bark. On a également le volume 11 de Sakamoto Days et le volume 27 de Tokyo Revengers. Chez Mangetsu, on aura la sortie du volume 19 de Ao Ashi, le volume 2 de Kaiju Defense Force, le volume 8 des Enfants d'Hippocrate, le volume 1 de Mother Parasites et le volume 5 de Ron Kamonohashi, des Ranges Détectives. Aux éditions Crunchyroll, on aura la sortie de la partie 1 du coffret Prestige Chainsaw Man. On aura le coffret Prestige avec les volumes 1 à 13 de Hell's Paradise et le volume 17 de Mashal. Aux éditions Doki Doki, on aura la sortie du coffret avec les volumes 1 à 4 de Chat de Yakuza, le volume 16 de Classroom for Heroes, le volume 3 de Conqueror of the Dying Kingdom, le volume 3 de Hachi et Marulu Chat des Rues, le volume 2 du Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. On aura également alors la sortie des volumes 1 et 2 de Sur la Colline où poussent encore ses fleurs. Donc vous aurez les volumes 1 et 2 séparés, une série qui se termine avec ces deux tomes. Et sinon, si ça vous intéresse, vous avez également le coffret qui sera vendu avec les deux tomes. Aux éditions Soleil, ensuite, on aura la sortie du volume 15 de Chocolate Vampire, le volume 17 de Friends Games, le volume 10 de Insomniac et le volume 4 de Suicide Girl. Aux éditions Pika, on aura la sortie du coffret avec les volumes 1 à 3 de Gachiyokata et le coffret avec les volumes 1 à 3 de Ton Visage au Clair de Lune. Et aux éditions Veritoon, on aura le coffret avec l'intégrale de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim et le volume 6 de The Abandoned Empress. On aura d'autres sorties pour jeudi 9 novembre avec chez Kurokawa le volume 12 de 008 Apprenti Espion, le volume 7 de Call of the Night, le volume 10 de Goblin Slayer Year One, le volume 21 des Héros de la Galaxie, le volume 28 de One Punch Man, le volume 9 de Oshinoko qui sera disponible en édition normale et en édition collector, le volume 2 de l'édition double de Pokémon Noir et Blanc, le volume 7 de Père Fouettard Corporation, l'édition deluxe de Spy X Family Eyes Only, et on aura le volume 27 de Vinland Saga qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Chez 404 éditions, on aura la sortie du volume 1 de Crispy 2052, chez Michel Lafon le volume 4 de Demon Star qui sera le dernier tome de la série, chez Omake Books, on aura le volume 2 de Harasaki, qui sera le dernier tome de la série, et aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 1 de Old Fashioned Cupcake with Cappuccino. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 10 novembre avec Shekana, le volume 11 de Bucket List of the Dead, le volume 11 de La Voix du Tablier, le volume 17 de Naruto, l'édition Hokage, le volume 11 de Sexy Cosplay Doll et le volume 3 de The Dangers in My Heart. Et enfin, aux éditions Noeve Crafts, on aura la sortie du volume 2 de Hidaten no Only Peace et le volume 2 de Riki et Yomi. Voilà, donc c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter une autre chanson, c'est Senko Strings de Cynthia. Et on revient juste après pour parler culture avec les expressions pour bien finir vos mails en japonais.
Pegasus,
C'était Cynthia avec la chanson Senko Strings. On passe maintenant à la partie culture. Donc, vous avez peut-être des amis japonais avec qui vous échangez en ligne. Alors, peut-être qu'il vous arrive de leur envoyer des mails pour leur raconter vos dernières aventures, parler de vos anecdotes rigolotes ou encore leur envoyer des photos. Et vous ne savez pas toujours comment terminer votre message. Bien sûr, il y a le fameux matané, mais comme en français, il existe de nombreuses expressions pour conclure un mail. L'avantage de les connaître, c'est qu'elles vous seront utiles avec vos amis, mais aussi dans un contexte plus formel comme le milieu du travail. Voici donc les expressions les plus courantes à employer à la fin de vos messages. Donc la première, c'est « Yoroshiku onegai shimasu ». C'est vraiment l'expression classique qui convient à toutes les situations. S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est bien celle-là. On pourrait la traduire par « je m'en remets à vous » ou bien « je compte sur vous ». Ensuite, on a Yoroshiku onegai itashimasu. Donc c'est la version plus soutenue de l'expression précédente. Elle est donc parfaite pour une utilisation dans un cadre professionnel. Ensuite, on a ogenki de. Donc c'est une expression qui signifie portez-vous bien. Vous pouvez donc l'employer dans vos messages avec votre famille ou vos amis. Mata meiru shimasu, littéralement je vous fais un prochain mail, mais on peut transcrire simplement cette expression en je vous réécrirai. Minasan ni yoroshiku otsutae kudasai. Donc si vous vous adressez à plusieurs personnes en même temps, vous pouvez utiliser cette expression qui signifie passer le bonjour à tout le monde. Ensuite, on a kiwotsukete kudasai. Donc cette expression signifie prenez soin de vous. Vous pouvez l'écrire à la fin d'un message ou lorsque vous réconfortez un ami ou tout simplement pour être affectueux envers votre interlocuteur. On a également karada ni kiwotsukete kudasai. Dans le même ordre d'idée que l'expression précédente, vous pouvez clore votre correspondance avec cette expression qui signifie « faites attention à votre corps, à votre santé ». Et enfin, on a « aeru no wo tanoshimi ni shitteimasu ». Donc vous avez des projets avec vos proches ou vous organisez une fête d'anniversaire pour votre meilleur ami. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette expression qui signifie « je me réjouis de vous revoir ». Voilà, c'est tout pour la partie culture. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est « Lost Breath » de Dee. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Gourmet Détective.
Yeah.
Donc c'était Lost Brace de Dee. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Gourmet Détective. Donc je rappelle que c'est un josei de genre tranche de vie qui a été écrit par Higashimura Akiko, traduit par Miyako Slocombe et prépublié dans le Coco Anna. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 10 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 3 tomes. Ce volume 2 est sorti le 12 avril 2023 au prix de 6,99€. Donc le résumé de ce tome, alors Kakechi et Ichigo vaquent chacun à leurs occupations, des sirènes retentissent dans leur quartier. Une fois sur les lieux, ils apprennent que le client d'un restaurant français s'est étouffé accidentellement en mangeant du pain. Mais Akechi a du mal à croire la thèse de l'accident et décide de s'intéresser de plus près à l'affaire. Au fil de son enquête, il va découvrir qu'écrire des commentaires malveillants sur un restaurant peut coûter très cher. Donc on retrouve Akechi et Ichigo dans un nouveau tome de haute gastronomie. Ce second volume est consacré à une seule et unique enquête tout du long, avec toujours ce lien à l'antagoniste d'où nous avons découvert l'histoire dans le premier tome. Et cette nouvelle enquête était toute trouvée pour notre détective gourmet, puisqu'elle met en avant la gastronomie française au Japon. Comme dans le premier tome, la nourriture est encore une fois mise en avant au travers des restaurants testés par notre duo, mais également grâce au bento préparé par Ichigo. Akechi, avec son côté sûr de lui et toujours prêt à utiliser les autres à sa guise, peut parfois paraître agaçant. Heureusement, sa perspicacité et son savoir le rendent intrigant. Quant à Ichigo, elle est toujours aussi attachante et apporte parfois une touche comique à l'histoire. Les dessins des plats sont vraiment beaux et appétissants, certains décors comme ceux représentant la tour Eiffel sont vraiment beaux et nous plongent dans cet univers haut de gamme mené par notre gourmet. Tout comme le premier, ce second tome de Détective Gourmet sait séduire avec son enquête intrigante, brillamment mélangée à la gastronomie. Voilà, donc je rappelle que la série Gourmet Détective est à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 10 tomes de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Endrons de D&L, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
情かは影のことをしたお前をなぞりゆく愛され
Donc c'était Androns de DNL. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc c'était une décision très attendue par la communauté LGBT+. La Cour suprême japonaise a jugé inconstitutionnelle l'obligation légale faite aux personnes transgenres de se faire stériliser pour pouvoir changer de sexe dans les registres d'état civil le mercredi 25 octobre dernier. L'obligation de stérilisation impose de graves restrictions à la vie d'une personne et limite le libre droit des personnes à ne pas subir, contre leur volonté, une atteinte à leur corps, a déclaré la plus haute cour japonaise dans un arrêt très attendu. Au Japon, une personne transgenre souhaitant que les registres d'état civil reflètent sa transition de genre doit saisir un tribunal pour les affaires familiales après avoir subi une chirurgie de réassignation sexuelle en vertu d'une loi adoptée en 2003. Elle doit aussi prouver l'absence de capacité reproductive, ce qui nécessite généralement une stérilisation, et ses organes génitaux doivent avoir une apparence similaire à ceux du sexe auquel elle s'identifie. Toute personne souhaitant ce changement d'état civil doit également être célibataire, ne pas avoir d'enfant mineur et être officiellement diagnostiquée comme souffrant de dysphorie de genre, c'est-à-dire d'une détresse causée par une inadéquation, entre le sexe assigné à la naissance et le genre auquel s'identifie une personne. La Cour suprême japonaise avait été saisie à la suite d'une action en justice lancée par une femme transgenre, demandant à être légalement inscrite comme femme sans subir d'opération chirurgicale, au motif que sa stérilisation obligatoire constitue une grave violation des droits humains et est inconstitutionnelle. Sa demande a été rejetée par un tribunal pour les affaires familiales, puis par une juridiction supérieure. C'est la deuxième fois que la plus haute cour du pays était appelée à se prononcer sur cette question. En 2019, elle avait confirmé la loi, jugeant qu'elle avait pour but de prévenir des problèmes dans les relations parents-enfants, pouvant conduire à de la confusion et des changements brusques au sein de la société. La Cour suprême avait cependant reconnu le caractère invasif de cette loi, ajoutant que la législation devrait être revue régulièrement au fur et à mesure que les valeurs sociales et familiales évoluent. Seule une poignée de pays, comme l'Espagne cette année, ont récemment facilité le changement d'état civil des personnes trans. Mais les défenseurs des droits LGBT+, s'indignent des procédures médicales longues, invasives et potentiellement risquées auxquelles contraint le Japon. Par ailleurs, seul pays du G7 à ne pas reconnaître le mariage entre personnes de même sexe ou les unions civiles au niveau national. Dans un rapport publié en 2019, l'ONG Human Rights Watch a ainsi jugé que cette obligation était fondée sur une notion péjorative selon laquelle la transidentité relève d'une maladie mentale. La procédure de changement légal de genre, qui nécessite une chirurgie de stérilisation et un diagnostic psychiatrique obsolète, est anachronique, nuisible et discriminatoire, a-t-elle condamné. Le débat évolue cependant dans l'archipel où un tribunal local pour les affaires familiales a rendu au début du mois un jugement sans précédent dans le pays, jugeant inconstitutionnelle et invalide la loi de 2003. Le Japon, traditionnellement conservateur, a aussi fait ces dernières années de petits pas vers l'acceptation de la diversité. Voilà, on va pouvoir tout de suite s'écouter une autre chanson, c'est Lucifer de DTR, et on viendra juste après pour finir l'émission avec News Musical. Yeah. C'était DTR avec la chanson Lucifer. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Donc le chanteur Corbin et le rappeur LXX donneront 3 concerts en Europe en février 2024. Celui à Paris aura lieu le 17 février et les billets seront mis en vente le 19 novembre à 11h heure locale sur le site de Séoul Therapy. Donc pour résumer la liste des 3 dates en Europe, on aura donc le 17 février 2024 à Paris en France, le 18 février 2024 à Londres au Royaume-Uni et le 20 février 2024 à Berlin en Allemagne. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Corbin, on va pouvoir s'écouter sa chanson Dante's Valley pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain pour l'émission Cordialement Geek. Ça sera de 18h30 à 19h. Sinon, vous pouvez retrouver mes 2 émissions sur Facebook. Voilà. Et on se retrouve sinon lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
The voices in my head.
would be enough. Oh, oh. And I hold my breath, thinking this could be my last time. There's nothing left but the vices and the burn lines. What can I do when it's all the fickle hearted? You can find me reaching for your love.